Voilà, Charlotte Cardin sur CFM à 18h et bientôt 9 minutes. On s'intéresse maintenant à un sujet sensible, et enfin, il faut s'y sensibiliser, en tout cas, c'est la pêche électrique.
Oui, c'est un article que j'ai lu dans la presse aujourd'hui qui a indiqué que 23 eurodéputés contre 3 ont approuvé un compromis politique, le compromis numéro 10 de l'article 24, hein, comprenez qui peut. Hein. Mais ce compromis va permettre d'étendre largement le nombre de chalutiers électriques en Europe. Il faut savoir que aujourd'hui, alors quand on dit chalutier électrique, c'est pas des chalutiers qui marchent à l'électricité.
C'est ce que j'allais te dire. Peut-être qu'ils ont compris ça, les eurodéputés. Ils ont dit, mais pourquoi les bateaux, ils n'auraient pas droit à l'électricité?
Ben écoute, on ne sait pas comment les lobbies présentent la chose à nos eurodéputés, mais en tout cas, le fait est que, en tout cas, il va y avoir un vote en assemblée plénière. Je ne sais pas trop comment ça marche l'Europe, c'est un peu compliqué, mais il va falloir que toute l'Europe se réunisse pour voter pour ou contre. L'étendue de cette pêche électrique que va nous expliquer dans un instant Frédéric Lemanach, directeur scientifique de l'association Bloom qui lutte contre cette pêche électrique qui, selon eux, eh bien, fait des ravages et on les comprend. Hein, Frédéric Lemanach, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette pêche, tout d'abord, elle est interdite partout, sauf en Europe et plus particulièrement aux Pays-Bas, où elle bénéficie d'une dérogation, c'est ça?
Alors, effectivement, oui, la pêche électrique est interdite partout dans le monde. Hein. Même la Chine l'a interdite pour ses ravages environnementaux et sociaux. Donc, c'est dire si c'est une méthode qui est radicalement efficace, un peu trop pour le fonctionnement de la biologie, des poissons et des écosystèmes marins. Et donc, effectivement, l'Europe la tolère depuis 2006 par un régime de dérogation. Donc, c'est effectivement, comme vous disiez, que l'Europe, c'est compliqué. C'est exactement le cas. On a quand même une technique qui est interdite, mais tolérée. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée de ce qui peut se passer dans les couloirs des institutions européennes. Et donc, c'est interdit depuis 1998 en Europe, mais il y a des dérogations qui existent depuis 2006. Et ces dérogations sont applicables à tous les États membres, pas uniquement aux Pays-Bas, mais les Pays-Bas sont le seul pays qui se profite de ces dérogations-là. Ce sont les seuls intéressés par la pêche électrique.
Sur un alibi scientifique, hein, c'est un peu comme les Chinois avec la pêche à la baleine, c'est-à-dire qu'on dit qu'on fait des recherches pour savoir quel est l'impact de cette pêche.
C'est ça. Alors la pêche à la baleine, je me permets de vous reprendre, c'est les Japonais.
Ah pardon.
C'est effectivement, il n'y a pas de souci, mais il y a un alibi scientifique, c'est-à-dire que les Pays-Bas disent qu'ils font de la pêche innovante pour faire de la recherche, pour limiter l'impact sur les habitats marins, réduire les rejets de poissons. C'est bien sûr totalement faux. Il faut savoir que dans les années 2000, les bateaux qui étaient utilisés avant étaient vraiment au bord de la faillite, puisqu'ils avaient des consommations de carburant qui étaient extrêmement élevés et donc ils perdaient de l'argent année après année. Et pour eux, la pêche électrique, parce qu'elle est radicalement efficace dans sa manière de capturer le poisson, était vraiment le développement tombé du ciel quelque part pour remettre à flot leur compte d'exploitation. Et effectivement, depuis, on voit que la courbe de revenus de cette industrie est délirante. Ils ont multiplié par 5 leurs revenus nets depuis quelques années. Donc c'est la poule aux œufs d'or pour la pêche électrique. Mais c'est pas du tout à viser de recherche ou de projet pilote. Ça, c'est totalement fallacieux, bien évidemment.
Oui, on voit bien là qu'on est sur des profits à court terme et qu'on s'occupe très peu finalement de la ressource. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, cette pêche électrique?
Alors c'est très simple. En fait, la pêche électrique, elle est appliquée à des chaluts. Donc un chalut pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, c'est des filets qui sont lestés et qui sont traînés au fond de l'océan pour capturer les poissons qui y vivent. Et les chaluts qui ont été transformés en chaluts électriques avaient des chaînes gratteuses qui servaient à déloger les poissons qui vivaient dans le sédiment. Et ces chaînes gratteuses ont été remplacées par des électrodes qui émettent des courants électriques qui créent des contractions involontaires des poissons, et ces contractions involontaires font que le poisson se retrouve convulse et se retrouve dans le filet extrait de force du sédiment où il est.
Donc ça laisse aucune chance, que ce soit des grands ou des petits poissons, donc on ramène tout dans les filets, et après, que se passe-t-il ? Est-ce que quand on rejette l'excédent à l'eau, le poisson tout d'un coup se réveille parce qu'il est moins sonné, et puis il peut aller se reproduire ailleurs ?
Alors, ce serait bien, mais malheureusement, c'est pas du tout le cas. Il y a une étude scientifique qui montre, par exemple, que les rejets de juvéniles de plusieurs espèces, comme par exemple la sole ou la plie, qui sont deux poissons plats qui vivent au fond de l'océan, sont très très faibles. Les taux de survie sont de l'ordre de 15%, sachant que ces taux de survie évalués par les scientifiques ne prennent pas en compte, par exemple, les oiseaux qui vont aller ensuite manger le poisson qui flotte et qui essaie de retourner en profondeur, si jamais il est encore vivant. Donc, on a des taux de survie qui sont extrêmement bas. Et bien sûr, vous avez des poissons qui sont touchés au fond de l'océan et qui ne sont pas remontés à bord. Et donc, on a une mortalité par la pêche électrique qui n'est pas visible non plus quand on remonte le poisson à bord. Mais en tout cas, il y a des effets visibles aussi de la pêche électrique, puisque une autre étude scientifique montre que 50 à 70% des cabillauds, qu'on appelle morues quand le poisson est salé et séché, 50 à 70% des cabillauds de grande taille ont la colonne vertébrale fracturée et des hémorragies internes. Donc c'est pas du tout un petit courant qui stimule les réflexes naturels des poissons comme le lobby néerlandais de devant. C'est vraiment un courant électrique fort qui crée des convulsions incontrôlées et qui casse assez souvent la colonne vertébrale des poissons.
Frédéric Lemanage, je rappelle que vous êtes directeur scientifique de l'association Bloom, une ONG qui lutte contre les excès de l'océan et la sauvegarde de nos mers et de nos océans. Qu'est-ce qui fait que 23 eurodéputés contre 3 ont déjà approuvé un compromis ces derniers temps-là? Comment ça se fait que il y a seulement 3 députés qui sont contre?
Alors, ça, c'est le fonctionnement des institutions européennes. En fait, vous avez comme à l'Assemblée nationale française, vous avez des commissions thématiques. Donc, au Parlement européen, on a une commission de la pêche avec des députés qui sont intéressés par les questions de pêche. Et le fonctionnement normal de la création des lois en Europe, c'est que vous avez la Commission européenne qui propose une loi qui ensuite est amendée par ces commissions thématiques. Et donc, ce vote-là de 23 contre 3, c'est en commission thématique. Et en général, pour la pêche en tout cas, ce sont des députés qui sont assez souvent proches des lobbies industriels pour la plupart. Donc on a souvent des décisions prises qui sont assez mauvaises. Nous, on connaît quand même un petit peu maintenant le processus et le fonctionnement de ce comité de la pêche. Et on n'est pas très souvent satisfait de ce qui s'y passe. Mais là, maintenant, on a un vote en plénière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc avec les 751 députés européens qui vont s'est positionné sur ce texte proposé par la Commission européenne et amendé, transformé par les députés de la Commission pêche du Parlement. Donc on a encore la possibilité, même si le compromis dont vous parliez est très mauvais, et autorise, permet en tout cas l'expansion radicale de la pêche électrique en Europe, on a encore moyen d'obtenir quelque chose de beaucoup plus ambitieux d'un point de vue environnemental et social. Donc nous, on vise, avec le vote qui aura lieu mardi 16 janvier, on vise l'interdiction pure et simple de l'utilisation de pêche électrique en Europe.
Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Je disais tout à l'heure à Aurélien, en début d'émission, on n'a pas l'habitude de s'impliquer, mais là, si on veut s'impliquer, parce que on trouve que vraiment la pêche électrique, c'est mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour aller dans votre sens?
Alors, vous pouvez en parler autour de vous, déjà, parce que tant qu'il n'y a pas d'opinion publique favorable ou défavorable à une proposition, rien ne bouge au niveau politique. Donc, si assez de citoyens européens contactent leurs députés pour leur dire « Nous, on ne voulons pas, en tant que citoyens, nous ne voulons pas voir de pêche électrique en Europe », ça va changer les choses. Nous, on a, sur notre site internet bloomassociation.org, on a mis en place une pétition à l'adresse des 751 députés européens. Donc, si jamais vos auditeurs pouvaient tous signer cette pétition, ce serait formidable, par exemple. C'est un premier pas, ça nous permet de montrer que les citoyens sont opposés à cette technique barbare dont le seul but est d'augmenter les marges et les profits.
Ah ben voilà, donc on va se faire un plaisir de partager cette pétition sur notre page Facebook, et puis on va inciter nos auditeurs à tout simplement aller la signer. Vous êtes actuellement à 74 563 signatures. Il faut un objectif de 200 000 signatures à peu près pour commencer à intéresser à la Commission européenne.
Ça dépend vraiment en fait des reprises médiatiques aussi et de ce qu'on fait avec ces signatures. Nous, on avait une campagne sur la pêche profonde avant, Et on a une pétition à 900 000 signatures, donc c'est là on en est encore très très loin. Après, ça peut aller très très vite. Mais on a vu au niveau européen des pétitions avec plusieurs millions de signateurs qui n'avaient aucun impact au niveau politique. Donc c'est, nous, on est plutôt pas mauvais dans la communication et dans l'utilisation qu'on fait de nos différents outils de plaidoyer et scientifique. Donc la pétition, bien évidemment, c'est quelque chose pour nous qui est un outil assez fort parce qu'on sait s'en servir ensuite pour mettre la pression sur les épaules des députés pour qu'ils prennent la décision qu'on juge la meilleure pour les citoyens européens.
Bon, eh bien, on va vous souhaiter bon courage dans le travail de lobby que vous avez à faire, ou de contre-lobby, je ne sais pas comment il faut le dire, au sein de ces députés d'ici le 15 janvier prochain, c'est ça, hein ?
Le 16 janvier, c'est ça.
16 janvier. Merci Frédéric Lemanac, directeur scientifique de l'association Bloom. Je rappelle votre site internet bloomassociation.org. Merci à vous d'avoir été avec nous sur CFM Radio pour en parler.
Merci à vous.
Au revoir.